Tout d'abord, ce que je voudrais dire, Monsieur le Président, c'est qu'on a eu beaucoup de chance à travailler dans ces conditions. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une véritable symbiose avec vos équipes avec lesquelles nous avons travaillé. Que ce soit pour l'organisation de la méthodologie, l'organisation de ce voyage que j'ai proposé au Canada, ou pour la compilation des informations ensuite. Et ça, je dirais que c'est assez rare dans mon expérience que j'ai depuis quelques années. C'est le préambule que je voulais faire, en tout cas. En tout cas, sur cette opération que l'on va vous présenter, on a essayé de faire en sorte, évidemment, de prendre un petit peu les fondamentaux que vous aviez fixés dans le cahier des charges. On a essayé ensuite, à travers les entretiens qu'on a menés, mais aussi les visites qu'on a faites ou les connaissances de lieux que nous avions, de les exploiter au mieux par rapport, encore une fois, au contexte qui nous regarde aujourd'hui, parce que c'est pas parce qu'on vient de loin que l'on peut transposer n'importe où, n'importe quoi. Et donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que dans notre équipe, nous avions une part de nos compétences qui étaient recrutées localement et qui s'imprégnaient véritablement, qui pouvaient nous imprégner, nous, de la connaissance et des spécificités de votre territoire. Ensuite, évidemment, le site. Ensuite, il fallait voir dans quelle mesure l'outil était compatible avec un site. Et je dirais que là, on a eu une chance incroyable, on va y venir ensuite, c'est d'avoir un site qui est très, très bien adapté à la question qui est posée aujourd'hui. Et on terminera, si vous en êtes d'accord, par les aspects financiers, qui sont un peu le nerf de la guerre, parce que c'est vrai que c'est un outil important, quantitativement. C'est un outil qui doit s'auto-gérer autant que faire se peut. Et on a pas mal travaillé sur l'approche des potentialités d'accueil en termes de public dans ce lieu, pour montrer jusqu'où ne pas aller, pour aller vers un gouffre financier, si vous permettez. Donc, le rappel de la commande, je crois que je vais aller un petit peu vite là-dessus, parce que vous la connaissez tous, elle a été rappelée. Les différentes thématiques, d'abord, sur ce que je peux dire, en tout cas sur ce slide, c'est que quand on a reçu le cahier des charges, on s'est dit, il va falloir faire du tri. Parce que c'est vrai que la première lecture du cahier des charges était de dire, en fin de compte, mais on ne va pas pouvoir tout mettre. Et il va falloir clarifier la chose. Il va falloir hiérarchiser un petit peu les informations qu'on cherche à transmettre à des visiteurs. Quel visiteur, mais aussi quelle information. Parce que trop souvent, à force d'informations multiples, on noie le poisson un petit peu, si vous me permettez l'expression. Donc tout le travail qui a été mené pendant quelques mois, c'était aussi de dire sur quoi doit-on mettre l'accent pour que la personne qui ressorte de l'universiel ait des idées claires, entre guillemets. Voilà, donc à partir de là, et on n'en demeure pas moins, qu'il y avait quatre grandes thématiques majeures qui étaient portées en débat, avec le ciel, les étoiles et la Terre, qui était sous-entendu, même s'il n'était pas explicite au départ. L'industrie aéronautique, patrimoine industriel, c'est vrai que, on va y revenir ensuite, mais ce qu'on peut déjà flasher sur cet élément-là, c'est que trop souvent, les lieux d'attraction un peu ludiques sont créés de nulle part. Et là, on a une chance formidable de pouvoir faire du lien entre le monde économique local et puis la thématique qui va être abordée. Et ça, je voudrais y revenir ensuite. Troisièmement, bien évidemment, au-delà de la clientèle du chaland local, vous avez une potentialité en termes de visiteurs, on va le voir tout à l'heure, qui va flirter avec le site qui nous regarde, pour être potentiellement un public important de notre opération. Et enfin, dernier point, qui est un peu lié au deuxième, l'attractivité collaborative. C'est vrai qu'il y a une ruche un petit peu sur votre secteur, à travers le milieu aéronautique, mais aussi à travers une dynamique en place sur votre territoire, qui montre que ça peut être un effet mayonnaise, entre guillemets, qui permette de passer de cet esprit collaboratif, de cet esprit créativité, immersion, on va le voir tout à l'heure, avec une transcription auprès des outils ludiques. En termes de méthode, bon, ça, je vais passer très vite parce que ça a été assez largement abordé. J'insisterai juste sur le fait qu'au-delà des entretiens qu'on a pu mener et des réunions qui ont eu lieu, c'est vrai que le Cosmodôme, j'insisterai juste sur cet élément-là, a plein de potentiel d'attractivité dans la réflexion. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui nous a appris beaucoup de choses en dehors de cette approche, je dirais, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure. C'est vrai que c'est un lieu où on papillonne, entre guillemets. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Trop souvent, on est conditionné à aller faire la queue, etc., à tel ou tel endroit. Et en fin de compte, on s'aperçoit au Cosmodôme qu'il y a multiples facettes de cet outil attractif pour pouvoir, je dirais, papillonner, aller là où il y a moins de monde, prendre une réservation pendant une heure, pendant deux heures, aller ailleurs, etc., etc. Et je dirais que c'était parfaitement pertinent en termes de messages pouvant être passés, pertinent parce que je dirais que c'était de la vulgarisation tout à fait bien menée auprès du grand public sur l'univers, mais aussi sur les outils technologiques que l'on peut associer à l'espace. Ensuite, donc, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir à réfléchir sur un lieu d'attraction. Je vous demanderai juste de noter ces deux termes qui vont revenir régulièrement dans la présentation. Attraction, d'abord. Attraction parce qu'on est un potentiel d'attraction de public, de grand public, par rapport à une vision attractive de dynamique et de pédagogie dans le monde de la science. Le deuxième terme essentiel, c'est la notion d'attractivité. Donc, je parlais d'attraction tout à l'heure, je parle d'attractivité maintenant. L'attractivité, ça va être justement cet élément de Mayonite qui doit émerger entre les masters, on va dire, industriels locaux, les plus jeunes, les start-up, etc., qui émergent sur le territoire, pour leur offrir un lieu, en fin de compte, particulièrement attractif, pour utiliser les visiteurs grand public en cobayes dans la réflexion et dans les outils qu'ils vont pouvoir mettre en place au sens de la réalité virtuelle, au sens de l'immersivité, etc., etc. Donc, une plus-value, tout le monde parle bien évidemment des grands équipements comme les futuroscopes et des éléments comme ça qui sont posés au milieu de nulle part. Là, on a l'opportunité pour que ce lieu soit créatif aussi. Il ne pourra être créatif que si le lien est véritablement fait entre l'attractivité industrielle et économique et l'attraction comme public cobaye de cette Mayonite. Donc, entre attractivité et attraction, comme on le disait tout de suite, on a essayé de positionner des thématiques. Les thématiques qu'on a déjà abordées à plusieurs reprises, pour montrer que, je dirais, qu'on navigue toujours entre les deux eaux de l'attraction, parce qu'il faut que ça soit des outils opérationnels, et de l'attractivité, parce qu'on est on va foisonner et on va multiplier l'innovation et la notion collaborative avec le milieu économique local. Au niveau du concept, il ressort de tout ça qu'entre toujours attraction en bleu et attractivité en rouge, on a essayé de définir tout d'abord, au-dessus de cette ligne, quelles doivent être un petit peu les notions de développement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élément qui est extrêmement important, c'est quand vous développez des outils avec le monde industriel, on a du mal à définir à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans ce qui va se passer. Et en fin de compte, on s'aperçoit sous la forme de ces bulles en pointillés, on a besoin de voir que ce sont des îlots qui vont se créer au fur et à mesure, alors que du côté attraction, on est plutôt sur un développement à partir d'un cœur de projet. Et donc c'est ce cœur de projet qui doit être l'outil à développer en premier lieu, cet outil qui va émerger peut-être de la discussion d'aujourd'hui, et qui va ensuite, si tout va bien, comme de nombreux lieux en ce sens, vont se moderniser au fur et à mesure, vont se développer au fur et à mesure, etc. Et donc dans tout cela, on a réinterprété un petit peu différents outils au service de ce développement, depuis des outils, on va dire, très ludiques, jusqu'à une interface attraction-attractivité qui est enrichie par les créateurs locaux, jusqu'à des outils plus de laboratoire, excusez les anglicismes, mais c'est vrai que c'est d'actualité, un Fab Lab par exemple, un lieu où on fabrique, un laboratoire, et donc où on met véritablement des moyens pour avoir une notion éclairante au sens technologique, et comme je le disais tout à l'heure, on peut aussi, derrière tout cela, le travailler dans le Living Lab, c'est-à-dire en collaboration aussi avec les publics qui sont en général très volontaires pour être, je dirais, les premiers utilisateurs, novateurs des outils développés. Donc, les quatre entités qu'on va voir successivement. La première, le premier point qu'on a appelé le hub du projet, ce n'est pas du tout pour vous faire un anglicisme supplémentaire. C'est parce que plutôt que d'utiliser la notion d'accueil, qui est en général assez galvaudée, si vous me permettez l'expression, dans un lieu comme celui-ci, à l'instar de ce qu'on a dit sur le cosmodôme, c'est un véritable carrefour qu'on doit créer. Un carrefour où on passe, où on repasse pour aller d'un lieu à un autre, d'une attraction à une autre, etc. Et c'est pour ça qu'on a développé cette notion plutôt de hub, autre que les fonctions d'accueil au sens large, parce que c'est véritablement quelque chose qui permet d'interconnecter l'ensemble des forces. C'est là aussi où on va trouver des propositions en termes de restauration, en termes de boutique, etc. Donc là, une image un petit peu de ce que se fait partiellement l'entrée du cosmodôme, où on voit qu'on a tout de suite la billetterie et on distingue à droite différentes entités possibles. Les deux autres images vous parlent peut-être un peu plus, ce sont des images de la cité d'espace à Toulouse, où on est aussi dans cette notion-là, et cette image en bas à gauche est assez expressive, par justement un lieu où on a plein de portes d'entrée, et on sait qu'on doit se rendre à telle porte pour telle chose, etc. Mais n'en demeure pas moins à droite, c'est que ça mérite d'être traité de manière relativement ample, tout ça. Parce que ça veut dire, si on passe et repasse dans ce même lieu, ça veut dire qu'il y a une fréquentation qui nécessite un dimensionnement plus important que le reste. La restauration, ça c'est une photo qu'on a prise à la SAT, à Montréal, qui témoigne du fait que les publics aujourd'hui cherchent à avoir un lieu qui soit relativement confortable. Confortable, ça ne veut pas dire une moquette de 10 cm d'épaisseur. Ça veut dire que ça soit une ambiance qui soit typée. Ça veut dire que ça soit évolutif, qu'on puisse avoir des propositions intéressantes en termes de boissons, de prestations de repas, etc., etc. Et c'était assez révélateur, on va dire, dans ce lieu La Sarthe à Montréal, qui est en fin de compte un ancien abattoir, si mes souvenirs sont bons, un ancien abattoir, bâtiment industriel, qui a été, on va dire, approprié par les associations qui ont créé cette Sarthe. Donc on est véritablement dans un bâtiment relativement standard et on va le revoir à plusieurs reprises. On ne va pas chercher dans ce projet des bâtiments complexes au sens technologique, mais des bâtiments qui sont susceptibles d'évoluer facilement. Donc là, quelques images qui montrent un petit peu la notion d'exposition, parce que c'est vrai que je dirais qu'il y a une grosse concurrence sur ces éléments muséologiques. Pour qu'il soit didactique. Et là, l'exemple qui est intéressant sur la partie droite, c'est le cosmodôme, pour montrer que qu'est-ce qu'une planète rocheuse, qu'est-ce qu'une planète gazeuse. Pour la majeure partie des humains, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand on a des supports qui soient véritablement expressifs, on peut tout de suite beaucoup mieux comprendre des choses comme cela. D'où l'importance d'avoir un budget aussi réservé à la muséologie, au-delà d'un bâtiment au sens propre du terme. Donc, à chaque fois, on va passer en revue, on va peut-être pas rentrer dans le détail, mètre carré par mètre carré. On voit qu'en mètre carré utile, c'est-à-dire mètre carré à créer par rapport à des fonctions, on est autour de 800 mètres carrés pour tout cela, soit à peu près un millier de mètres carrés, une fois tout développé avec les circulations et les sanitaires. Ensuite, à partir de ce hub, il faut interconnecter une notion qui s'appelle le dôme. Alors, vous en connaissez certainement. Au moins par réputation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces dômes sont des outils extrêmement performants pour rendre immersif quelque chose. Évidemment, ces dômes sont nés d'abord pour créer une voûte étoilée de manière artificielle, mais on voit qu'aujourd'hui, ça a pris des proportions extrêmement variées dans tout cela, puisque depuis cette voûte étoilée, on a commencé, on le voit dans une vidéo très intéressante aujourd'hui à Toulouse, à la Cité de l'Espace, on voit qu'on a pu reconstituer la mise en condition d'un sol martien, d'aller vérifier, d'aller interfacer avec le présentateur de l'image, etc. Et puis on a vu ça à la SAT aussi, et ça se voit sur d'autres lieux, à Paris et à Bruxelles en particulier, on voit que ces dômes maintenant sont exploités autour des arts numériques. Et on va y revenir un petit peu plus loin. Mais il n'en demeure pas moins que c'est vrai que quand on a essayé de calibrer ce projet, on a eu de vastes discussions ensemble pour dire jusqu'où ne pas aller. C'est vrai que ça mérite un petit peu de spectaculaire, un petit peu d'ampleur. Et la simulation que nous avons faite ici, c'est grosso modo, si vous me permettez l'expression, d'une sphère de celle des dimensions de celle de Toulouse à la Cité de l'Espace, qui permettra donc de recueillir entre 200 et 230 visiteurs simultanément, assis, donc un peu plus encore debout, etc. Donc, comme je le disais tout à l'heure, sur la partie gauche, on voit comment on peut se rendre immersif dans un ciel en imaginant soit le décollage d'avions fabriqués localement, etc. Et sur la partie droite, de montrer que tout ça, ça peut reposer aussi sur des phénomènes un peu dynamiques. Alors, c'est peut-être un petit peu gadget. C'est si vous donnez quitus à ce pré-programme pour qu'on aille plus loin, c'est jusqu'où ne pas aller dans le gadget des sièges, mais c'est un petit peu tout ce sur quoi on voudrait insister, parce que derrière tout ça, cette notion de polyvalence depuis, comme je le disais tout à l'heure, la voûte étoilée monofonctionnelle jusqu'aux arts numériques aujourd'hui qui exploitent ces dômes, c'est vrai que ça repose aussi sur une grande polyvalence du lieu. C'est aussi des artistes aujourd'hui du monde du spectacle qui utilisent ces lieux-là et qui sont potentiellement des lieux d'expression et des lieux de diffusion. Voilà, vous avez un petit peu ces exemples d'immersion dans la musique, dans les arts numériques, et puis on va vous donner un petit peu d'immersion supplémentaire. Les images artificielles ont été créées à Moscou, si mes souvenirs sont bons. Ça peut être très figuratif, comme ça peut être très réel. On va le voir au fur et à mesure. Ce que peut être ce dôme si on lui donne un certain côté spectaculaire, parce que c'est vrai qu'à un moment, quand il a fallu sortir des chiffres, on s'est dit on pourrait peut-être essayer de le réduire, et on s'est aperçu que, en fin de compte, cette immersivité ne vaut que si le dôme est suffisamment spectaculaire. Donc on est sur un diamètre qui tend vers 20 mètres de diamètre pour pouvoir accueillir 200 places assises et à peu près 450 à 500 debout, qui peut être un outil aussi extrêmement performant pour des entreprises qui cherchent à une démonstration sur un nouveau modèle, sur une convention d'entreprise, etc. Troisièmement, ce qu'on a aperçu tout à l'heure, et ce sur quoi on a pas mal, on a été immersif par rapport au cosmodôme, c'est ce côté immersivité collective et individuelle dans lequel on va maintenant rentrer, ce qui est la troisième composante, on va dire, de ce projet. Voilà des ambiances telles qu'on peut les voir dans les Serious Games, où on a, en fin de compte, on part, en général, des publics au départ assez jeunes, mais les jeunes adultes s'y plongent en général pas mal. On rentre dans un monde particulier, comme si on était dans une navette spatiale, etc., pour aller, aboutir à un objectif, une mission qui est assignée à un lieu comme celui-ci. Donc c'est véritablement dans l'immersion collective, parce que plusieurs personnes peuvent simultanément avancer dans cette mission, qui peut aller d'accrocher un vaisseau spatial à la fusée, qui peut être d'aller récupérer un caillou sur Mars, etc., etc. La table immersive que Fabrice évoquait tout à l'heure, où on a vu que de manière pas très compliquée au sens technologique du terme, l'immersivité fonctionne très facilement. C'est vrai que Sherbrooke l'a particulièrement bien mis en valeur en exploitant, en fin de compte, de manière hyper didactique pour les plus jeunes, comment l'évolution de la Terre s'est faite à travers la tectonique des plaques, quelque chose d'assez difficile à aborder de manière simple, et comment cette immersivité de la table peut être un outil au service, justement, par exemple, de la tectonique des plaques et de la sismologie. Etc. C'est pour montrer aussi qu'avec des solutions technologiques assez simples aujourd'hui, on peut atteindre des performances tout à fait exceptionnelles. Vous avez aussi des outils, comme on le voyait tout à l'heure, plus ludiques d'immersivité individuelle, depuis des simulateurs de vol, depuis des outils plus perfectionnés comme en haut à droite pour les apprentissages en vol, jusqu'à une petite immersivité sous la forme d'une coupole sphérique, etc. Il y a des moyens importants qui existent en la matière et qui peuvent aujourd'hui être largement développés. On voit qu'on peut reconstituer avec un drone un survol qui va être utile ensuite dans cette immersion individuelle de survol de Tarbes, de survol des Pyrénées à définir. Simulateur de vol. Conditions opérationnelles, cette fois-ci. Voilà, donc maintenant vous êtes complètement immergé dans de tout cela. Une interprétation possible aussi au niveau de la réalité augmentée à travers quelque chose que l'on pourrait reconstituer autour de vos Pyrénées à proximité immédiate et qui rejoint la problématique qu'on a vue tout à l'heure d'escalade. Ça nécessite d'avoir un équipement de masque, voire de gants tactiles. Cela repose évidemment plutôt sur des espaces qui soient capables de recevoir ces outils qui évoluent sans cesse. Et donc il ne s'agit pas de créer un lieu qui soit parfaitement adapté à un outil d'aujourd'hui, mais de faire en sorte qu'on travaille plutôt dans la notion de hall, qui bénéficie de toutes les énergies qui vont bien, pour pouvoir justement faire évoluer en permanence ces outils immersifs, qu'ils soient individuels ou collectifs. Donc à travers tout cela, on voit qu'apparaît maintenant avec un bandeau rouge, cette fois-ci sur la partie haute de l'écran, les espaces de travail, qui interagissent avec les industriels tels que Daher qu'on a rencontrés et qui ont accueilli très favorablement le projet, des startups qui sont à la demande de lieux d'expression, de lieux de, de création, de montage, et de pouvoir, dirais-je, toucher les usagers potentiels qui sont les premiers à être séduits par ce genre de matériel. Vous avez ici quelques images sur ces notions de création avec les imprimantes 3D, etc. Voilà, on passe ensuite. Voilà, ça c'est un outil qu'on a vu, par exemple, qui reconstitue la mise en apesanteur au Cosmodôme, qui est un outil qui a été créé localement et qui est utilisé maintenant par le plus grand des publics. Les superficies assez modestes dans un premier temps, on l'a vu tout à l'heure, c'est si ça marche, on peut aller plus loin. Donc vous avez ici l'ensemble des moyens qu'on vient de voir, qui reposent donc sur cette notion de cœur de projet, parce que si ça marche, ben je dirais que la velléité d'un tel projet, c'est de pouvoir, on le voit, tout l'exemple le plus criant, ça a été les péripéties, on va dire, du Futuroscope, qui en fin de compte, à chaque fois qu'il s'est endormi un peu sur ses lauriers, ben je dirais, s'est trouvé dans une situation d'échec. Et donc, encore une fois, renouvellement, et si ça a un certain succès, il faut faire en sorte que le projet architectural puisse, ça ne sera pas bon vous, ça ne sera peut-être pas moi non plus, certainement, mais que ça puisse évoluer dans les 5, dans les 10 ans qui suivent. Ce qui est important, c'est ce qu'on voit ici, en partie en bas à gauche, avec justement cette notion d'échelle qui est très importante, parce qu'un outil comme celui-ci, ça a besoin d'une taille minimale suffisante. Ça, on l'a constaté à Bertas quand on est allé sur Logique, mais qui n'arrive absolument pas à joindre les deux bouts, si vous me permettez l'expression, parce que prévu un peu petit. Donc là, c'est une première image de ce que pourraient être les interfaces entre les différentes entités, continuité vers les expos, et puis cette fluidité entre les différentes entités. Pour nous, tout cela nous amène à environ 2000 m², un peu sophistiqué, notamment sur le dôme qui est relativement cher au mètre carré, et c'est ce qui nous amène à considérer qu'on est sur une opération toutes dépenses confondues hors taxes, j'insiste sur ces termes, c'est-à-dire c'est pas le coût de travaux, c'est le coût avec tous les frais annexes, mais hors taxes, considérant que comptablement vous pouvez récupérer la TVA. Donc on est sur du toutes dépenses hors taxes à 13 600 000 euros dans ses premiers développements. Par rapport au site d'implantation, on m'a donné en pâture, quand je suis arrivé, un site qui se trouve pas très loin d'ici, un tout petit peu plus au nord, qui est totalement vierge et totalement libre de toute servitude majeure, qui est le long de la nationale et qui a une chance extraordinaire pour tout visiteur qui arrive du nord d'avoir une grande esplanade avec en fond les Pyrénées. Et je dirais que c'est quelque chose d'essentiel pour faire accrocher quelque chose d'aussi virtuel que cela, quelque chose d'aussi plastique que serait cette construction avec les Pyrénées en fond immédiat. Et donc l'accessibilité, bien évidemment, très facile, bénéficiant des deux échangeurs de part et d'autre, l'échangeur qui nous amène depuis le nord vers l'aéroport, et l'échangeur du sud qui vient depuis là où nous sommes. On voit que c'est tout à fait compatible en termes de superficie. On voit que c'est à proximité d'acteurs économiques majeurs qui nous intéressent dans ce projet, et on voit que c'est parfaitement lisible pour tous, puisque la plus grande critique qui est faite aujourd'hui à des installations comme le Futuroscope, c'est à force d'avoir construit entre l'autoroute et le Futuroscope, on ne le voit plus. Les conditions de mise en œuvre, alors on a essayé bien évidemment d'être le plus raisonnable possible, parce que c'est un petit peu la réputation que j'ai, c'est de ne pas forcer la dose sur les superficies et sur les effectifs. On voit que vous avez sur la droite quelles sont les références, on va dire, en termes de public accueilli. Alors, il ne s'agit pas de parler de concurrence avec le Futuroscope, avec 2 millions de visiteurs annuels aujourd'hui. La Cité de l'Espace, elle, jouit d'une population beaucoup plus importante. Par contre, on s'aperçoit que, et si on élimine les spatiaux à Berta, qui est en dessous du nécessaire, du minimum nécessaire, le Cosmodôme est un bon repère. Il est vrai qu'il est dans la banlieue de Montréal, mais en même temps, il ne bénéficie pas de l'attractivité touristique que vous avez ici, puisqu'on s'aperçoit que très facilement, même si la population endogène, la population locale, doit bénéficier de ce renouvellement pour revenir et pour avoir un certain succès auprès des visiteurs multiples, vous avez un potentiel de visiteurs extrêmement important, que ce soit au sens nature, que ce soit au sens sportif ou même culturel, avec Lourdes à proximité. Donc, on ne rentre pas dans le détail ici, ça irait trop loin. On a essayé de donner une certaine typologie à cette clientèle touristique avec des constats qui sont faits aujourd'hui les plus récents sur le fait qu'on part plus souvent, on part moins longtemps, il faut parfaitement être organisé, etc. etc. Ce sur quoi on est arrivé, c'est de dire que le dôme, je dirais que ça peut représenter 41 000 visiteurs annuels si on est extrêmement raisonnable au regard de ce qui se passe dans d'autres lieux comme celui-ci. Sur des agglomérations de moindre importance que Toulouse. Ça veut dire qu'il y a du tourisme d'affaires qui pourrait, comme je le disais tout à l'heure, bénéficier de cet outil dôme pour faire des manifestations importantes. Il y a des velléités pour une programmation autour des arts numériques qui est en grand développement aujourd'hui, ce qui nous permet d'estimer que le nombre de visiteurs, rien que sur le dôme, ça peut être 41 000 visiteurs. Sur les fonctions immersives qu'on a vues ensuite, on peut penser qu'on pourrait être assez rapidement sur 45 000 visiteurs au regard de ce que peut-être la visite et la revisite, comme on le dit, de jeunes qui pourraient venir à plusieurs reprises. Et puis, bien évidemment, un lieu si, comme celui-ci, s'il est un peu didactique, il a une potentielle captive, un potentiel captif de clientèle avec l'éducation nationale, si on travaille bien autour de la didactique, parce que c'est des clientèles qui peuvent faire de la pub et revenir avec les parents. Ce qui nous amène à dire que assez rapidement, on peut travailler sur 90 000 visiteurs. C'est pas extravagant, 90 000 visiteurs annuels. On peut penser que si tout va bien, on peut approcher beaucoup plus facilement les 100 à 110 000 visiteurs. Et que dans tout cela, élément de comparaison, le pic de Gers, c'est 70 000 visiteurs. On monte et je dirais qu'on a une vision du naturel. Le pic du midi, c'est 90 000 visiteurs. Ça donne des ordres de grandeur aussi. Hein. Donc on a essayé d'avoir les meilleures simulations possibles en termes de ressources humaines pour faire fonctionner un lieu comme celui-ci. On a pris en compte cette notion de saisonnalité qui est extrêmement importante. On a essayé de prendre toutes les charges pour aboutir à un coût de fonctionnement sur le petit équilibre. On insiste, si tout le monde connaît ce principe, c'est de dire l'investissement de base, il faut l'absorber, mais il faut au moins que cet équipement s'autogère. Et on s'aperçoit que quand on liste, on est parti de la simulation à 90 000 visiteurs, puisque c'est ce qu'on peut imaginer en vitesse de croisière assez rapidement, on est sur des sommes importantes. Si on a une montée en puissance avec 30 000 et 60 000 visiteurs, on a des sommes qui sont plus raisonnables et qu'il faut amortir avec les recettes. Ces recettes, on s'aperçoit que ce soit à 30, 60 ou 90 000 visiteurs, on sait que sur un panier moyen autour de 17,30 € par visiteur, on rentre strictement dans les clous. Et en tout cela, c'est sans considérer, je dirais, les apports économiques de manifestations, etc., qui viendraient en sus, puisque là, c'est le panier du visiteur du grand public qui permettrait d'équilibrer ses recettes à raison de 17,30 € par visiteur. 17,30 €, hein, vous connaissez les tarifs locaux. Pour monter au pic de Gers, on était déjà à 12,50 €. Donc, pour avoir des outils technologiques dynamiques et immersifs, etc., je pense que 17 euros, ça reste dans une échelle assez raisonnable.